Ce qu'elles disent. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui sur Ce qu'elles disent, chronique littéraire avec Claire. Bonjour Claire.
Bonjour.
De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui et de quels ouvrages ?
Alors, merci de cette invitation. Je suis très heureuse aujourd'hui. Je voudrais vous présenter deux livres. Alors, on est en pleine saison des prix littéraires et ces deux livres constituent ce que j'appellerais pour moi le Goncourt de mes lectures de l'été. Des livres importants comme des rencontres. Mmh. Vous savez, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois et que tout est si agréable, si fluide, on se comprend à demi-mot, on se dit que cette personne, même si on ne la revoit pas, sera une amie ou un ami pour la vie. C'est ce qui s'est passé avec ces livres dont je veux vous parler. Je les ai prêtés, je les ai offerts et je suis heureuse de partager cette lecture avec vous.
Alors, mais mettons fin au suspense. De quel livre parlez-vous ?
Il s'agit de « Mon vrai nom est Elisabeth » d'Adèle Lyon et « Le complexe de la sorcière » d'Isabelle Sorante. Ce sont deux livres assez différents, mais qui ont de nombreux points communs. C'est pour ça que je souhaitais les rapprocher. Dans les deux cas, il s'agit de récits mêlant autobiographie ou autofiction. La frontière entre autobiographie et autofiction, pour moi, est un peu floue. Et enquête. Dans les deux cas, les autrices ont fouillé un passé historique à partir de leur expérience de vie. Dans les deux cas, ces femmes qui ont l'une 30, l'autre 50 ans, écrivent en mélangeant les genres, le récit, le roman, l'essai philosophique, la recherche historique et l'enquête de terrain. Ce sont des écritures résolument contemporaines qui s'appuient sur une réalité cachée et nous font découvrir des pans ignorés de notre histoire et plus particulièrement de l'histoire des femmes, une histoire occultée qu'elles réhabilitent.
Alors, mon vrai nom est Elisabeth, c'est un drôle de titre, non ?
Oui, et ça s'éclaire au fil du récit. Je vais vous en donner les grandes lignes. La narratrice, qui craint de devenir folle parce que la folie serait dans ses gènes, se lance dans une enquête pour faire la lumière sur son arrière-grand-mère, Elisabeth, que l'on appelait Betsy, et qui avait été diagnostiquée schizophrène dans les années 50. Une personne dont on ne parlait pas dans la famille, il ne fallait pas en parler. La narratrice s'attache donc à soulever le poids du secret, interrogeant sa propre grand-mère, ses grandes-tantes et grands-oncles, et se nourrit des maigres images et écrits qu'elle trouve et des archives de la psychiatrie des années 50. Cette enquête se lit comme un roman policier, et ce qu'elle va découvrir, par petites touches de témoignages en archives incomplètes, est effrayant. Pire que les électrochocs. Pire que ces romans dans lesquels des femmes saines d'esprit sont enfermées par des hommes tout-puissants.
Alors, sans nous dire exactement tout ce qu'il y a dans le livre, hein, pour permettre à nos autrices et auteurs, les auditeurs, auditrices de le lire, que découvre-t-elle en fin de compte ?
Elle découvre comment, jusque dans les années 60, la société bourgeoise patriarcale mettait à l'écart les femmes encombrantes. C'est-à-dire un peu trop fantaisiste, indocile, sûrement insatisfaite, jusqu'à les meurtrir irrémédiablement dans leur chair. Et ça ne s'est pas passé au Moyen-Âge, c'était seulement il y a 50 ans.
Peut-être nous lire un petit passage que vous auriez sélectionné ?
Donc, elle mène son enquête avec l'un des fils, un de ses grands-oncles. Il doit me raconter une chose. C'est un souvenir et il lui fait mal. Il dit tout ce qui suit d'une traite, le visage baissé, plongé dans des notes qu'il ne lit pas. Au fur et à mesure, la surface du papier se couvre de petites taches rondes. Sous elles, les lettres manuscrites se diluent, sa voix est ferme, imperturbable. Le souvenir sort de lui comme un oursin, piquant, aiguisé. Il le déverse sur moi pour se décharger des tunnels qu'il creuse en lui à chaque fois que la mémoire lui revient. Il est petit garçon. Pour lui, la maison de la rue de la République est un terrain de jeu. Il n'y a pas de tabou. Il entre comme ça, ouvre les portes comme ça. Un jour, il pénètre dans la pièce qui est la chambre d'André et Betsy. Il est 14 heures après le déjeuner. Betsy est dans le noir. Les rideaux sont fermés, les volets aussi. Il n'y a pas de lumière. L'enfant dit à sa grande sœur, « Que fais-tu dans le noir ?» Alors elle lui dit, elle lui répond, « Je sens que je deviens folle, mais je n'y peux rien. » Je sens que je deviens folle, mais je n'y peux rien. Ça m'a fait, dit le frère, j'ai tout compris. Qu'elle ne mange pas, qu'elle se taise devant André à table, qu'elle ne réponde pas quand André lui disait « Je te l'ordonne, mange !» Qu'elle ne se lève pas, qu'elle reste dans le noir, qu'elle n'ait pas ouvert les volets, les rideaux, rien. Moi, ça m'a fait, je ne l'ai dit à personne. Les premiers à qui j'en ai parlé, c'est ma femme, des années plus tard, quand on s'est mariés. Le frère se tait, je peux presque apercevoir dans ses pupilles serrées et vides le visage de sa sœur, ovale dans un halo d'obscurité. Que pouvais-je répondre ? Il dit, je crois que je suis partie. La phrase résonnait dans ma tête et j'ai pensé, sa maladie est grave. Mais je me demande si c'est une maladie qui se déclarait ou un manque de parole sur des sujets essentiels, des sujets dont elle n'avait rien dit à personne, même à sa famille, même à André. Je demande, vous voulez dire que... Pour vous, Betsy n'était pas vraiment malade, au sens où elle aurait été atteinte d'une véritable pathologie. Voilà, c'est cette ambiguïté et sur une maladie qui est simplement une façon d'être, mais qui a été traitée de façon extrêmement sauvage par la société du début du XXe siècle.
Et donc, vous voulez nous parler d'un autre livre maintenant ?
Alors, je voudrais faire le parallèle avec un autre ouvrage qui s'appelle Le complexe de la sorcière, que j'ai découvert par hasard. C'est un roman de 2020 qui est en partie autobiographique. À l'époque, on commence seulement à prendre conscience des ravages du harcèlement sur les enfants et les adolescents dans les cours de récréation ou sur les réseaux. Et l'écrivaine Isabelle Sorrent a été elle-même souffre-douleur à l'école et revient sur cette expérience traumatisante. Elle en parle comme d'une véritable chasse qui crée chez les victimes peur et honte et qu'elles mettent du temps à pouvoir raconter. Elle n'a pas prévu de s'intéresser à la chasse aux sorcières avant de faire le lien avec sa propre expérience de harcèlement. Je la cite dans une interview où elle présente ce livre. « La sorcière nous fascine tous à cause de ses pouvoirs, de son apparence changeante, de sa façon d'ondoyer dans notre imaginaire, tantôt vieille femme, évoquant les sorcières de Macbeth, plus tantôt beauté fatale, proche des vampes, des films noirs, mais toujours radicale, marginale, qu'elle soit mystique, sage-femme ou herboriste, pratiquant son art en dehors du couvent, de l'université, de la famille. Pas étonnant que cette marginalité soit devenue un symbole du féminisme. Tremblez, tremblez, les sorcières sont de retour, scandaient les Italiennes de la génération de ma mère, avant de devenir, 50 ans plus tard, le mot d'ordre du mouvement écoféministe. L'une des plus célèbres théoriciennes de l'écoféminisme, Starhawk, n'hésite d'ailleurs pas à se revendiquer sorcière.
Alors, on connaît bien les sorcières depuis la publication du livre de Mona Chollet, « Sorcières, la puissance invaincue des femmes » en 2018. Et là, qu'est-ce qu'elle a écrit de plus ou qu'a-t-elle rajouté de plus à ce qu'avait pu écrire Mona Chollet?
Ouais, c'est important parce que la force du livre d'Isabelle Sorrent est de s'appuyer sur le sensible et sur la psychologie fouillée de l'adolescente qu'elle était, ou celle de la femme adulte en analyse qu'elle est aujourd'hui, à la recherche d'un apaisement, d'un équilibre. Elle évoque sa peur des autres comme une intériorisation de l'inquisiteur. Et elle retourne à l'histoire de la chasse aux sorcières avec crudité, réalisme. Le lecteur ressent la peur en le lisant. Moi, personnellement, mon sang s'est glacé plusieurs fois. Le livre déroule, dévoile progressivement les mécanismes qui règlent les rapports intrafamiliaux, les rapports de couple, en allant vers un apaisement, bien sûr. Et la fin, d'ailleurs, est magnifique. Une belle soirée de partage avec ses amis, où chacun raconte une histoire vécue qui désigne, pour la chasser, la figure prise par l'inquisiteur dans sa vie. Donc, elle pose des questions fondamentales qui sont nouvelles pour moi. Comment la chasse aux sorcières a-t-elle imprimé nos rapports hommes-femmes jusqu'à aujourd'hui ? N'est-il pas le paradigme de nos relations toxiques ?
Et vous vouliez nous lire peut-être un passage de cet ouvrage également ?
Elle parle de sa mère qui a intégré la misogynie familiale et passe son temps à dire que les bonnes femmes ne valent rien. C'est sa formule. Elle ne se mettait pas du côté des bonnes femmes parce que c'était quelqu'un de très dur. Mais voilà. Donc ma mère haïssait sa vie et sa haine était si grande qu'elle retombait sur toutes les femmes. Du moins, c'était ce que je pensais à l'époque. Il n'y avait pas si longtemps, c'est ce que je pensais. Jusqu'au moment où j'ai lu, dans La Sorcière et l'Occident, que les sorcières sont appelées bonnes femmes. Ce qui retient mon attention aujourd'hui, c'est que ce que la sorcière fait apparaître, ce ne sont pas les circonstances, c'est la peur. La peur est l'indice, la peur que je ressentais, la peur que j'essayais de me cacher à moi-même, la peur qui tout d'un coup faisait blêmir ma mère lorsque le mépris des femmes la submergeait. Elle disait « Il n'y a que des grands peintres, il n'y a que de grands écrivains, il n'y a que de grands voyageurs, tu vois bien que les bonnes femmes ne valent rien. » Un jour, je devais avoir 30 ans, je me souviens que j'ai crié « Alors, je ne vaux rien ? Alors, tu ne vaux rien ? C'est ça que tu veux dire ?» Et elle « Mais non, bien sûr que non. Mais qu'est-ce que je raconte ?» Comme si je l'avais giflée, et qu'elle revenait à elle. L'inquisiteur s'était enfui.
Et donc, qu'est-ce que vous pourriez nous dire
pour conclure,
un peu en conclusion voilà.
Merci. Pour conclure, je préciserai qu'il y a de nombreux ouvrages qui sont parus, notamment en septembre cette année, qui commencent comme des enquêtes et qui tentent avec plus ou moins de succès d'embrasser la grande histoire dans la petite histoire. Le prix Goncourt 2025, donc la Maison vide de Laurent Mauvignier, avec ses trois magnifiques portraits de femmes et leur rôle dans les deux guerres mondiales, est au centre du récit. Colcos d'Emmanuel Carrère est une enquête sur sa mère. Un autre portrait de mère, Simone et Monet de Catherine Millet. Mais, comme le disait Laurent Mauvignier à la réception de son prix très très récemment, il n'y a pas de petite histoire personnelle ou de grande histoire. Il n'y a que l'histoire faite par les gens.
Ben, merci beaucoup Claire pour ces deux présentations du livre donc, « Mon vrai nom est Elisabeth » d'Adèle Yon, qui a obtenu plusieurs prix, un prix Essai France Télévisions 2025 et un prix littéraire du Nouvel Observateur et un grand prix d'électrice Elle. Peut-être aussi parler de la maison d'édition, parce qu'on a souvent d'autres maisons d'édition qui sont citées, mais là c'est quand même important de préciser. Donc ce sont les éditions du sous-sol. Et d'ailleurs, Adèle Yon a été refusée par un certain nombre d'éditeurs avant que cet éditeur-là se dise « mais vraiment, ça vaut la peine, elle a été primée ». Et le deuxième livre.
Et puis donc Isabelle Sorrente, Le complexe de la sorcière, qui existe en folio, donc un livre de poche tout à fait bon marché, que je recommande aussi.
N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, si ces lectures vous inspirent, à laisser des messages. Claire vous attend vos messages. Donc vous nous trouverez sur la page Facebook de rvrradio.fr. Vous nous retrouvez aussi sur le site, par téléphone. Voilà, il y a vraiment de nombreux moyens de nous contacter, de nous laisser vos témoignages. Encore merci.
Ce qu'elles disent.
Ce qu'elles disent.
Ce qu'elles disent.
Ce qu'elles disent.
Ce qu'elles disent.